Et les 9 heures.
Avec le Covid, la guerre en Ukraine et la flambée des prix sur les biens de consommation courante et notamment l'alimentaire, la précarité est un phénomène en progression en Hauts-de-France. Elle touche également les étudiants de nos universités. Bar à soupe est une association fondée en 2022, elle intervient auprès des étudiants lillois à qui elle propose des soupes solidaires afin de contribuer donc à lutter contre cette précarité alimentaire étudiante, mais aussi sensibiliser les étudiants aux bienfaits de la consommation de soupe. On retrouve l'équipe à son stand en fin de sa distribution sur la cité scientifique de Villeneuve-d'Ascq à la maison des étudiants.
Oui, donc c'est une association qui s'appelle Bar à soupe. Donc on a fondé cette association à deux. L'idée, c'est de préparer des soupes solidaires pour les étudiants.
Voilà, donc à partir d'un besoin que vous aviez ressenti?
Oui, en fait, le besoin, c'était au moment de la Covid. Moi, j'étais enseignant à l'université, donc on avait été sollicité par la vice-présidente Emmanuelle Jourdan-Chartier, qui nous avait alerté sur les conditions de vie des étudiants. Et puis essayer d'imaginer des solutions qui permettaient de venir en aide. Donc le projet a germé. Nous, avant, on faisait des maraudes sur l'île. Et on s'est dit, pourquoi pas faire des distributions de soupe sur l'université, mais pas exclusivement destinées aux étudiants précaires. Alors en priorité pour eux, mais aussi pour les autres, leur donner l'occasion de manger des légumes.
Donc là, on est juste devant les locaux de la maison des étudiants. Il y a des étudiants qui sont bien animés derrière et qui jouent à des jeux et qui mangent aussi. Est-ce que certains d'entre eux proposent de vous aider parfois?
Alors, il y en a. Le petit problème, c'est que c'est leur disponibilité. Nous, on prépare les soupes en journée. La veille de la journée du jour de distribution, on va récupérer les légumes, les nettoyer, les découper, les peser. Et donc ça, on le fait en journée. Donc les étudiants sont pas tellement disponibles. On fait cuire les soupes en journée aussi le mercredi. Mais par contre, il y en a de temps en temps qui viennent donner un coup de main le mercredi midi ou le mercredi soir. Et puis on a pour les distributions. Et puis il y a une activité que Anna a démarrée depuis un peu plus d'un an, en partenariat avec les Restos du Cœur. Et tu vas peut-être parler un peu justement des ateliers qui sont faits avec les étudiants.
Oui, donc moi j'ai un partenariat avec les Restos du Cœur pour déjà distribuer de la soupe en même temps que leur distribution à eux, qui se passe ici sur le campus. Et une fois par mois, on organise un atelier cuisine avec des bénéficiaires, étudiants bénéficiaires des Restos du Cœur. C'est un atelier qui est organisé en partenariat avec les Restos du Cœur et le Crous et nous. Et donc ça se passe bien. L'idée, c'est de montrer un petit peu aux étudiants de quelle façon on peut cuisiner les produits qui leur sont distribués par les Restos du Cœur. Et ça se passe bien. On a une dizaine d'étudiants, entre 8 et 10 étudiants à chaque fois. Et à l'issue de l'atelier, on mange tous ensemble.
Est-ce qu'il y a un planning qui est disponible pour ceux qui auraient envie de profiter peut-être de ce que vous proposez?
Donc les distributions de soupe, c'est tous les mercredis à midi devant la MDE. Donc on est là à partir de 11h30 et on part vers 13h. Et le soir, c'est devant la résidence Gallois à partir de 18h30 jusqu'à à peu près 20h.
On a effectivement un fichier sur lequel les gens, les bénévoles peuvent s'inscrire à l'avance. Alors on envoie l'adresse du fichier à ceux qui en font la demande et ils peuvent nous contacter à notre adresse email qui est barasoup.solidaire@gmail.com. Donc ils nous demandent et on leur envoie l'adresse du fichier partagé où ils peuvent voir les différentes activités et s'inscrire.
Est-ce qu'en région de France vous avez d'autres points de rendez-vous ou est-ce que vous êtes en lien avec d'autres assos du même type?
Alors en Hauts-de-France, je pense qu'on est les seuls à faire un petit peu ce type d'activité. On appartient à un collectif qu'on appelle des acteurs de l'aide alimentaire qui a été mis en place par la vice-présidence de l'université et où on retrouve les principaux acteurs de l'aide alimentaire, gros ou moins gros. Nous, on est un petit acteur. Notre spécificité, c'est qu'on fait de la transformation. La majeure partie des autres font de la distribution, de surplus, d'invendus. Nous, on essaye de les valoriser et de faire du qualitatif en distribuant des soupes. On n'a pas les moyens pour l'instant d'être présent ailleurs. On aimerait bien, mais on est un peu limité par la capacité de production et puis par les bras qui pourraient nous aider à mettre en place des distributions. Donc, s'il y a un appel, s'il y a d'autres campus qui sont intéressés, nous, on est tout à fait ouverts à partager notre expérience et ça sera avec plaisir qu'on verrait des initiatives de ce type démarrer sur d'autres campus de l'université.
Depuis 2022, comment vous ressentez l'évolution des besoins des étudiants par rapport au fait de se nourrir ?
Comment on la ressent ? Alors, nous, le premier problème, c'est l'information des étudiants. Comment les toucher pour les informer qu'il y a ce service qui est mis à disposition. Donc, c'est vrai que les premiers temps, il y a un peu de méfiance, mais qui est légitime, comme partout, quand on les interpelle, quand ils viennent ici à la cafétéria ou autre, et bon, ils sont un petit peu méfiants. Et en fait, l'information circule surtout de bouche à oreille. Et ce que nous, on a pu observer, c'est que les gens viennent plus spontanément qu'au début. Ils sont moins méfiants, je suppose, parce qu'ils voient qu'il y a d'autres étudiants qui viennent. Et nous, on communique très peu sur l'aspect précarité, même si ça reste une forte préoccupation pour nous. En fait, on voit de plus en plus d'étudiants qui viennent, mais qui viennent surtout pour le plaisir, soit d'avoir un petit moment de partage, ça c'est nos distributions de soir, où les étudiants ont plus de temps, soit de déguster des soupes, et par expérience, quand ils viennent, ils reviennent et ils parlent, parce que nous, ce qu'on entend, c'est qu'ils trouvent que les goûts sont très bons.
Alors, chaque année, le 1er mai, il y a une fête de la soupe à Lille. Est-ce que vous y avez contribué ?
On l'a fait pendant 2 années. Et là, ça fait la deuxième année où on ne le fait plus parce que, d'une part, on n'y trouvait pas, nous, notre compte. Et si on y participait, c'était pour faire passer le message de Bar à Soupe. Et ça, c'était pas possible dans le cadre de cette fête, ce qui est très agréable par ailleurs, mais on n'avait pas tout à fait notre place. Voilà.
Bar à Soupe collecte donc des légumes moches, des invendus, des surplus de production, sous forme de dons ou à des tarifs préférentiels. Elle les transforme lors d'ateliers participatifs ouverts à tous et les distribue en soupe au public étudiant. L'équipe nous fait part maintenant de ses besoins pour poursuivre, sinon développer ses activités.
Pour l'instant, on continue un peu sur notre lancée. À un moment, on parlait éventuellement de monter en puissance, mais c'est vrai qu'on est limité en capacité de production. L'université nous met à disposition une cuisine pédagogique à Polytech Lille, mais qui est quand même en priorité utilisable par pour les étudiants. Donc nous, notre inquiétude, ça a été que cette possibilité s'amoindrisse du fait qu'il y ait de plus en plus d'étudiants qui soient sur des projets à utiliser cette cuisine. Donc notre inquiétude, c'était d'avoir un local où, quand on ne peut pas préparer là, on puisse le faire sur l'université. On a fait un appel auprès du CROUS, auprès des différentes structures. On n'a pas eu de réponse. Mais c'est une demande qui reste constante et sur laquelle moi j'aimerais interpeller l'université parce que je pense que c'est quelque chose d'original de montrer qu'on peut, dans des conditions sanitaires maîtrisées, préparer quelque chose de bon, attractif et mettre en avant que c'est fait à l'université et grâce à l'université.
Est-ce que vous allez faire une soupe de rentrée pour marquer le coup ?
Alors on fait tout le temps des soupes à la rentrée. Donc nous, on a 15 recettes pour l'instant qu'on a développées. On a un petit fascicule que les étudiants et les personnels peuvent télécharger gratuitement. On a un QR code qui donne accès aux recettes. Donc on tourne sur ces recettes. On est sollicité en général à la rentrée pour participer au JVE.
Donc les JVE, ce sont les journées
d'intégration des nouveaux arrivants où les différentes associations sont présentes, expliquent ce qu'elles font. Donc Nous, on est présents, c'est l'occasion de réexpliquer un peu ce que l'on fait. Et on aura certainement, alors peut-être pas une soupe spécifique, mais on tourne avec nos recettes. Et en septembre, on aura certainement une de nos 15 recettes à mettre en avant pour la rentrée, oui.
Voilà, toujours donc devant la maison des étudiants de l'Université de Lille à la Cité scientifique.
C'est ça. Et le soir, devant la résidence Gallois. Normalement au restaurant du cœur qui sont aussi, alors je ne sais pas encore pour combien de temps, à la résidence Gallois, donc sur la cité scientifique à Villeneuve-d'Ascq.
Donc avec des militants, des bénévoles évidemment, hein, qui prennent un certain plaisir à aider ces jeunes, à leur donner une soupe ou un morceau de pain, voilà, bonjour.
C'est même pas un certain plaisir, c'est un plaisir certain.
Voilà. Ça fait longtemps que vous participez à ce projet de soupe ?
Un an à peu près.
Et donc là, pendant les vacances, vous allez vous ennuyer ou pas ?
Oui, complètement.
Bon, en tout cas, la rentrée va se préparer, j'imagine. Vous allez vous ressourcer ?
Ben oui, je ferai des soupes à la maison.
Et vos petits-enfants apprécient, vos enfants ?
La soupe ? Oui. Ben, ils ne sont pas avec moi, mais je leur ai donné les recettes.
Bar à soupe, une idée associative qui pourrait bien germer dans d'autres universités des Hauts-de-France. N'hésitez pas à la faire connaître. C'était un reportage de René Lavergne de Radio Campus Lille.
Cette émission est proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France. Une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.
Écoutez Radio Campus dans les 106, dans les 6.
Dans un vertige au corps noueux de licorne, abandonnons pour quelque temps les étincelles de l'immédiat et s'oublions encore une fois. Dans mon tiroir, avoir passé les salariés, invisible et sans histoire, insouciable et sans idée, et sans la moindre idée
Thank you.
le temps nous écorche les amitiés d'hier. D'autres vont pleuvoir dès demain matin. De la ville sur sort et l'on se tourne les mains, on n'est pas comme ça par chez nous. On dit bonjour aux miliciens.
Le 31 mai et le 1er juin, le festival Chewamfest a eu lieu à Noyelles-sous-Bellonne, près de Douai. Lors de cette dernière édition, nous avons rencontré des membres du groupe lillois Lieutenant Cobb, Olivier à la batterie et David à la guitare et au chant.
Quand j'ai commencé, c'est plutôt en solo 2010, donc ensemble, c'est plutôt 2012-2013, je dirais, donc ça fait une bonne dizaine d'années.
Ouais. On a fait un petit break de 2 ou 3 ans, voilà, aux alentours du Covid, et puis après on a repris il y a 2 ans.
C'était juste avant le Covid, on a senti le truc arriver, on s'est dit, bon, faut faire un truc là. Donc on a arrêté 2 ans et on a repris derrière.
C'est comme ça qu'on s'appelle un lieutenant, on prévoit d'avance, c'est normal.
Chef de troupe.
C'est pas par hasard, c'est pas par hasard un lieutenant.
Oui, pourquoi alors?
Alors voilà, justement. Alors c'est, à chaque fois on me demande pourquoi, enfin ceux qui me le demandent, dans la rue, c'est pas non plus tous les jours. Donc lieutenant, ça vient d'un film de Yves Boisset qui s'appelait Canicule et qui se passe dans la Beauce, donc région parisienne, mais c'est une sorte de western français quoi. Et le lieutenant Cobb dans le film, c'est Lee Marvin en fait. Voilà, ok.
Ah oui, donc ça vient de là. Et, et comment c'est né l'envie là de vous réunir et de faire du blues? Comment ça a commencé?
On se connaissait depuis un moment, on a joué dans divers groupes, même ensemble dans d'autres groupes et à un moment donné, je me suis dit, je vais composer, voilà, ça s'est fait comme ça. Donc en plus, il y a Richard maintenant à la basse et Antoine à l'harmonica, donc on est 4. Formation, quand tu dis blues, mais c'est pas que blues, c'est-à-dire ça va un peu plus loin que le simple blues, je dirais, basique, quoi. Même s'il y a une trame un peu blues, quoi.
Il y a beaucoup de mélodies, il y a des passages très rock, c'est un mélange en fait.
Donc c'est ensemble que vous composez ou il y a vraiment un leader, enfin quelqu'un qui compose tout, c'est les morceaux?
À la base je compose guitare chant et après on voit tout ça ensemble et puis on met ça en branle quoi, si je peux me permettre.
Ouais,
et
vous avez un lieu pour répéter, vous réunissez souvent alors là?
Oui, alors les lieux pour répéter en ce moment c'est sur Arras, mais avant on était sur Wany et donc c'est toujours pas forcément facile de répéter quoi, en tout cas pour trouver le lieu quoi.
Vous faites souvent des concerts, vous tournez beaucoup en région là et dans des festivals comme aujourd'hui?
Les concerts on a repris depuis à peu près 1 an et c'est vrai qu'on joue régulièrement, là, au moins 2 fois par mois en ce moment.
Ah oui, 2 fois par mois quand
même. Dans des bars, dans des festivals, ça dépend.
Si on revient sur le répertoire, qu'est-ce que vous racontez dans les chansons? Ça parle de quoi?
Rien.
Ça parle de rien?
Ça m'intéresse pas.
Non?
Non, les chansons, non. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les mélodies. Un peu les textes, mais ça vient après la mélodie.
Il y a d'abord l'idée de la...
D'abord l'idée de la mélodie de la à la guitare, la musicalité, et après le texte vient tout le temps après, quoi.
Ouais.
Ce qui ne veut pas dire que je m'y intéresse pas, mais c'est pas l'élément moteur en tout cas en premier. Quoi. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde, mais il y en a beaucoup, même en français, qui chantent en français, qui fonctionnent comme ça. C'est-à-dire poser d'abord la mélodie, la musique, et après le texte.
Généralement, voilà, on associe quand même le blues au contest song, à quelque chose de très social dans la revendication.
Là, c'est plutôt des situations je dirais, humaines, en fait. Mais je veux dire de relations hommes-femmes, etc. Mais c'est pas vraiment... J'ai pas cette idée de...
Ce qu'on veut...
Je pense que ceux qui font du blues, ils ont quand même un vécu par rapport à ça. Moi, je l'ai pas, cette chose-là. Donc ça...
Ce qu'on veut faire passer comme message aussi, c'est la façon dont on compose, dont on présente la musique. Les sentiments que les gens ressentent à travers nos mélodies, la puissance qu'on y met, ou la douceur. C'est pas forcément les paroles.
Quand on travaille à 4, on se surprend encore. Est-ce que ça arrive dans le set qu'il y ait une surprise, qu'il se passe un truc, ou alors vous connaissez tellement bien que c'est compliqué de vous attraper?
Non, il se passe des choses, ça dépend. En fait, j'ai l'impression qu'il y a un... Pour ceux qui s'intéressent un peu au foot, c'est jamais le même match. Ben, quand tu joues, c'est jamais le même set non plus. Il y a un moment donné, il peut se passer des choses.
Ça dépend du public.
Ça dépend aussi des gens.
Quand tu maîtrises ce que tu fais, tu t'exprimes. Alors, nous, quand on joue, on n'en est plus à réciter ce qu'on fait. Donc on joue, on s'exprime.
Ouais.
Donc on s'exprime différemment en fonction des gens qu'on a en face de nous.
Et à quel moment c'est que le morceau qu'on vient de créer, ça y est, c'est fini, il est bon, on peut l'offrir, on peut le partager?
C'est un ressenti à 4, si on se dit ça, tu le ressens, tu joues, tu dis il se passe un truc, on joue.
Ouais.
Si on sent au bout de 2-3 fois qu'il se passe pas grand-chose, bah hop, tu mets de côté. Quoi.
David est très fort à ce niveau-là, il n'y a aucun affect, il n'y a pas d'ego, c'est-à-dire il fait des morceaux, il les joue.
Si ça intéresse pas grand monde...
Si ça ne nous intéresse pas, on le dégage.
Vous venez d'entendre un extrait du titre « Come Alone » du groupe lillois Lieutenant Cobb, un tout nouveau titre que le groupe appelle son single de printemps. Rencontré au festival Chewam Fest à Noyelles-sous-Bellonne, David et Olivier du groupe Lieutenant Cobb nous en parlent.
En fait, cette année, on a un projet, on sort un single par saison. Donc en janvier, on a sorti une single d'hiver. Là, dans les jours qui viennent, on sort le single de printemps. Il y en a un qui arrivera pour l'été et il y en a un qui arrivera pour l'automne.
Avec des arrangements, c'est aussi un travail studio qui est fait par rapport à ce que vous livrez sur scène. C'est autre chose, c'est une autre expérience, il y a autant de plaisir.
C'est moins brut, c'est moins instinctif que sur scène, mais David, c'est un super arrangeur.
En fait, l'idée de base, c'est la même, c'est-à-dire on enregistre à trois guitares, basse, batterie, donc c'est brut. Ouais. Par contre, après, moi, j'aime bien quand il se passe des choses dans l'arrangement, dans la réalisation, quoi. Si c'est pour faire exactement la même chose qu'en live, ça m'intéresse pas plus que ça.
Ah, vous faites une prise avec les trois instruments en même temps ou c'est
non, en trois en même temps. Guitare, basse, batterie. Je fais un chant témoin, après, on refait le chant, des guitares. On fait l'harmonica, on fait des arrangements.
Pour le rock, c'est le minimum quand même. Pour le rock blues.
Aujourd'hui, il se passe tellement de choses en studio.
Mais nous, on est des vieux, nous.
On a des albums qui sont enregistrés sur différents continents, mélangés.
Il n'y a pas de numérique, nous, c'est que de l'analogique.
Et ça se fabrique où en analogique ici dans le coin?
En tout cas, les prises, c'est des prises micro, live. Après, les consoles, c'est certainement numérique, je pense. Mais ça l'est d'ailleurs, mais la façon de faire, c'est à l'ancienne, quoi. Ça, c'est sûr.
Ça change quelque chose, justement, de travailler à l'ancienne ou pour toi, ça fait sens au-delà du grain, de la profondeur du son ou,
on ne sait pas trop parce qu'on n'est jamais travaillé autrement.
Oui, et puis on le fait comme ça parce que ça nous paraît plus évident à la base, mais peut-être qu'on ferait autrement, ça marcherait aussi. Hein. Donc on n'a pas non plus d'a priori là-dessus. Hein.
C'est vrai.
Et puis l'harmonica, alors, comment ça vient à un moment donné de dire on met l'harmonica
C'était un besoin. En fait, on a plutôt travaillé beaucoup à trois. Moi, je connaissais le père d'Antoine, parce qu'il avait enregistré quelques parties d'harmonica sur le premier CD que j'avais fait.
Qui était un très bon harmoniciste.
Très, très bon harmoniciste. Donc, il y avait son fils, donc on s'est dit, tiens, c'est marrant. Et en fait, on s'est dit, tiens, on va travailler ensemble. Et puis, ça s'est fait comme ça.
Et surtout, on voit, nous, dans le groupe, on voit pas l'harmonica comme un harmonica classique. On l'utilise parfois comme une section de cuivre, parfois comme des parties de clavier.
Un bruitage.
Il joue, il y a des pédales, c'est un harmonica 2.0. Ouais. Quoi.
C'est pour le coup, tu vois, le côté blues, c'est pas du tout dans le sens à l'ancienne. C'est à bord, parce que moi, le côté blues harmonica, ça m'intéresse pas plus que ça, tu vois, les trucs enfin.
À partir du moment où il trouve une partie où on a envie de faire un feu de camp.
C'est pas bon,
ça nous intéresse pas.
Pourtant, vous essayez quand même de mettre le feu.
Ah, surtout Antoine. Ah, je peux te le dire.
Oui, lui, sur scène, il est très très dynamique.
Attention.
Contrairement à d'autres. Mais c'est vrai, il est. Mais c'est sa force aussi, ça, la scène. Quoi.
Et oui, vous disiez, les morceaux, vous les testez sur scène, entre guillemets, déjà.
Non,
en
on les teste en répétition. Tu vois un peu si ça fonctionne entre nous, tu te dis que ça peut fonctionner vis-à-vis d'autres gens. Quoi. Ouais. Si ça fonctionne pas déjà entre nous, il n'y a aucune raison d'aller le jouer. Quoi. Par contre, après, tu as des réactions, tu as des gens qui préfèrent sans doute.
Et qui ne sont pas forcément les mêmes en fonction des endroits où tu joues. Donc si tu commences à choisir les morceaux en fonction du public, c'est pas comme ça se passe en fait. Quand on présente un morceau aux gens, on est sûr que nous, on aime.
Oui, sinon, je pense que ça fonctionnera même pas vis-à-vis des gens. Quoi. Si toi, tu as un doute sur le morceau, je pense qu'il y a des gens qui vont avoir des doutes aussi sur le morceau. Enfin, moi, je le sens comme ça. Quoi.
Et puis, c'est aussi, vous le disiez tout à l'heure, rechercher votre couleur, entre guillemets, telle pédale d'effet, telle chose. C'est un peu ce que cherche chaque groupe aujourd'hui, justement, de ne pas être dans la norme numérique. Vous parliez tout à l'heure, vous faites attention à ça, vous faites au feeling, en fait, finalement, et vous avez votre propre couleur qui s'est faite.
Après, sur scène, c'est quand même assez brut. Hein. Bon, il y a un peu d'effet sur l'harmo, mais globalement, guitare, basse, batterie, moi, j'ai un son direct, ampli, quelques effets, mais très peu, la basse, pareil.
De toute façon, tu sais, ton son, c'est avant tout ta façon de jouer.
Oui, c'est surtout ça.
Tu as des pédales, tu peux en mettre 150. Ouais, c'est pas pour ça.
En général, plus t'as de pédales, moins c'est bon signe. Quoi. C'est assez direct, en fait. Moi, je pars du principe qu'il y a des choses que je sais faire, et je vais plutôt aller dans le sens d'améliorer ce que je sais faire déjà, d'ailleurs, au bout de ça, plutôt que d'essayer de faire des choses que je ne sais pas faire.
Les prochains concerts, c'est quand est-ce que vous les avez en tête?
Alors là, le mois de juin, il va être consacré à un nouvel enregistrement chez Patrice Kubiak à Fache. Après, tu mets à Studio K. Donc on va enregistrer quelques titres pour continuer l'histoire de
des singles.
Singles quoi. Donc en juin, il n'y aura rien. Donc en juillet, on reprend fin août.
On va jouer au Béthune Rétro Festival fin août. On va jouer sur Wani en septembre, sur Arras aussi en septembre. On va jouer à L'Équin pour le 11h11. Je ne sais pas si vous connaissez avec Alex Mélis au Centre culturel de L'Équin. C'est le samedi matin à 11h11. Dans un auditorium magnifique.
Le dimanche, je n'aurais pas pu, je vais à la messe. Donc,
Et c'est pas du tout le même public qu'en soirée, c'est très intéressant. C'est excellent. Ouais, ouais. Voilà, c'est ça pour l'instant, c'est ce qu'on a de prévu.
C'était David et Olivier du groupe lillois Lieutenant Cobb qui est venu jouer au festival chez Wham Fest le samedi 31 mai 2025 dans le village de Noyelles-sous-Bellonne, près de Douai. Retrouvez toutes les infos sur le groupe sur les réseaux sociaux en tapant Lieutenant Cobb, C-O-B-B. Interview de Carole et Hervé et réalisation de Jérôme Bailly de Radio Scarp Sensé.
Cette émission est proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France, une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.
Retrouvez toute la musique que j'aime, un projet artistique de territoire sur Radio Campus. Une série d'émissions réalisées en direct et en public à Villeneuve-d'Ascq. Toute la musique que j'aime est une aventure qui donne la voix aux habitantes et aux habitants d'un quartier à travers 5 émissions diffusées aux 4 coins de la ville. Rejoignez-nous pour la dernière émission le 21 juin à partir de 17h à la maison de quartier Pasteur. Au programme balade sonore, repas convivial, performances musicales et rencontres inédites. Des émissions proposées par l'Amicale, coopérative de projets vivants, en partenariat avec la Ferme d'en haut et dans le cadre d'un contrat ville avec la ville de Villeneuve-d'Ascq.
My friends have picked me up again. Sam Sauvage, c'est la révélation musicale du moment, made in Hauts-de-France, puisque le jeune artiste de 25 ans est originaire du Boulonnais. Et ça fait quelques années que ça dure, lui qui a démarré sa carrière musicale en 2017 à l'issue d'un tremplin à Béthune. Quelques singles, ça et là, le Covid qui a ralenti son ascension, le retour aux affaires avec un EP sorti en 2023 intitulé Prémisse, et puis en 2025, tout explose. Un titre, Les gens qui dansent, j'adore, lancé sur les réseaux, qui fait le buzz, des passages médiatiques réputés comme à Taratata sur France 2, les Zéniths en première partie d'Eddie Depreto et un EP, Sam Sauvage, sorti le 23 mai dernier, que le jeune Boulonnais défendra lors de quelques festivals cet été, comme les Francopholies de La Rochelle, le Main Square Festival à Arras, Rock en Stock à Étaples ou encore le Poulpafone à Boulogne-sur-Mer. Un véritable tourbillon auquel le jeune homme fait face avec beaucoup de sourire et beaucoup d'humilité.
Tourbillon, c'est un bon mot, mais par contre, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu. Et puis, je veux dire, même si jamais on peut se dire que c'est fatigant, etc., tout ça, qu'il y a beaucoup de choses, que c'est très intense, bah, c'est quand même avant tout une chance inouïe de faire ça. Il y a bien pire comme métier, bien le contraire, donc que de parler de sa musique ou que de la faire devant les gens. Donc, pour l'instant, moi, c'est un truc que j'ai attendu un petit peu pendant 9 ans, d'avoir la chance de jouer sur scène souvent et de sortir un disque et de le défendre. Donc là, c'est en train d'arriver, en tout cas, pour ce disque-là. Donc, plein de bonheur, un peu moins de sommeil, mais plein de bonheur.
9 ans de carrière, mais un chemin qui s'est fait aussi parfois à tâtons. Sam Sauvage revient sur son parcours depuis la sortie de l'EP Prémisse.
J'ai sorti Prémisse parce que je voulais absolument sortir quelque chose et j'étais pas encore sûr de mon identité, de la question de la singularité, de l'artiste, c'est très important pour moi. Mais il fallait que je sorte quelque chose et en fait, quand j'ai sorti ces titres-là, bah forcément, j'ai pas eu forcément beaucoup de résultats. Je les avais sortis comme ça. J'avais un petit peu d'auditeurs qui étaient majoritairement à ma famille. Et qui s'est passé après, c'est qu'une amie m'avait conseillé de me mettre sur les réseaux sociaux et m'avait dit vraiment que si jamais je ne faisais pas les réseaux, ça ne marcherait pas. Donc on en croit ce qu'on veut bien, mais en tout cas moi je l'ai écouté, j'ai fait ça une fois par jour à faire des vidéos, à présenter mon truc sur Instagram, TikTok, tous les réseaux sociaux possibles, même Facebook, YouTube. Et en fait je peux pas dire le contraire, ce serait mentir que de dire le contraire, c'est que c'est ça qui a accéléré les choses.
C'est assez fascinant d'ailleurs parce que tu es plutôt jeune, on pourrait croire que tu vis avec les réseaux et pourtant c'était pas le cas.
Non, bien au contraire. Moi je suis vraiment sur ce côté-là, j'ai tout d'un vieux. C'est-à-dire que comment j'ai vraiment. J'ai aucune connaissance sur le réseau, je faisais ça de manière complètement naze. Et comment j'envoyais mes vidéos à ma pote justement qui me disait ah, mais arrête, tu mets des bandes noires, c'est terrible, c'est quand même la base, ça me fait un effort et tout. Et en fait j'ai appris avec le temps. Et je pense qu'il y a aussi le fait que des gens me disaient que ça avait l'air très authentique. Et je pense qu'en fait, c'est parce que j'avais pas eu le choix, dans le sens où je savais pas faire du beau montage, je savais pas faire des vidéos très travaillées, et j'avais pas les moyens vraiment de le faire non plus.
Je crois que l'amitié a beaucoup accompagné aussi ton parcours. Tu as fait notamment des écoles qui t'ont permis de te tisser un réseau de partenaires, mais qui sont aussi devenus des amis, notamment pour la réalisation de tes clips, parce que tu es très attaché aussi à l'image dans les clips. Ça a vraiment été aussi l'accompagnement de tes amis qui a été un tremplin supplémentaire dans cette évolution.
Bah, je pense qu'aujourd'hui, on dit qu'on peut tout faire tout seul, et c'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire que, je veux dire, comment il y a un peu le côté do it yourself, mais en moment, pour tenir la caméra, il faut bien quelqu'un. Pour comment avoir un œil dans l'image, il faut bien se faire conseiller par quelqu'un, il faut bien recevoir des avis de quelqu'un. Et pour, par exemple, faire un EP, quand on veut enregistrer, il faut bien quelqu'un rien que pour appuyer sur le bouton d'enregistrement. Et c'est pas que ça en plus. C'est juste là, on dit ça parce que c'est la base de la chose. Et pour ça, j'ai été très accompagné. J'ai eu beaucoup j'ai eu de la chance par exemple avec mon ami Gabriel Caron Falgarona quand on a fait l'EP Prémisse en clandestin dans le studio de mon école de son. C'était lui qui m'accompagnait jusqu'à 23h pour aller faire des prises, et quand j'ai tourné des vidéos sur Instagram, c'était mon pote Maxence Alexandre qui fait de la musique aussi qui m'a filmé. Et en fait ça c'était vraiment le moteur.
Un EP qui, musicalement, sonne parfois comme la bonne pop des années 80. Si Sam Sauvage est toujours clairement influencé par Bachung, Biolay ou encore Belin, eh bien, il s'est autorisé quelques envolées au synthé, notamment sur le titre « Les gens qui dansent, j'adore ». On en parle avec l'artiste.
C'est la découverte du synthé déjà, je me suis mis très tard, en fait je fais tout après tout le monde, je fais tout très tard et du coup j'ai un retard de dingue sur toutes les musiques etc, enfin, quand des gens découvrent des choses, moi je découvre les choses du passé. Et en fait comment c'est drôle, parce que les gens qui dansent, comme je disais juste avant que c'est un accident de basse, en fait comment c'est, quand j'ai découvert le synthé, on m'a dit en sortant ce morceau, ah ouais ça se voit que t'as écouté de la new wave, ça se voit que t'as écouté à fond Talking Heads et tout, et pour être tout à fait 100% honnête, c'est pas le cas. C'est-à-dire qu'en fait, comment je pense que l'influence... moi, je découvrais tous ces morceaux-là. Alors, j'en connaissais certains, mais la plupart qu'on parlait de Taxi Girl, j'avais jamais écouté Taxi Girl avant. Et en fait, comment j'ai écouté ça? Parce qu'on m'en a parlé. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que je découvrais les influences nouvelles après avoir sorti le morceau qui a été influencé par ces influences-là. Donc c'est assez particulier. Et c'est tout un... Mon son aujourd'hui, c'est tout un espèce de condensé de tout ce que j'ai bien écouté depuis 9 ans, je pense. Et surtout, ça a été le fait que j'ai enfin trouvé ma voix pour chanter. J'ai enfin, en tout cas, dans ma sensation, c'est encore en voie d'évoluer. J'ai enfin trouvé mon son dans mes arrangements et dans ma façon de composer. Et j'ai surtout encore développé, je trouve, ma façon d'écrire que je me voulais propre.
L'évolution de Sam Sauvage n'est pas que dans sa musique. À compter de la rentrée, il va désormais tourner avec un véritable groupe. Ce qui était d'ailleurs un des rêves, une des ambitions de Sam Sauvage.
Ça a commencé avec Taratata. C'était la première fois qu'on jouait à quatre. J'ai rencontré une fabuleuse batteuse qui s'appelle Dorian Gamba. Et David Enfrein, qui est le bassiste et qui nous gère aussi toute la partie PC que Corentin et moi, qui tournons depuis un an, n'arrivons pas à gérer. Et en fait, c'est un bonheur immense, parce que moi, c'était mon petit rêve de gosse, c'est de pouvoir jouer à quatre sur scène, parce que j'ai toujours pensé que la musique était faite pour ça. C'est-à-dire que là, l'ordinateur qu'on utilise avec Corentin sur scène, qu'on va utiliser lors du Main Square et tout, c'est très chouette. Hein. C'est simplement que la musique ne va pas au bout de là où elle devrait aller. Et à partir de septembre, ça va être une vraie tournée dans ces conditions-là, avec à quatre sur scène, en plus en van, donc la vie d'artiste un peu... dont chaque gamin de 15 ans a rêvé, bah moi là je vais la connaître au moins un petit temps, et ça c'est chouette.
Sam Sauvage nous présente donc son EP éponyme, et si cet EP porte son nom, ce n'est pas pour autant un EP autobiographique, contrairement au précédent. Mais que nous raconte cet EP sur son artiste ?
De moi, il raconte le regard justement que j'ai sur le monde qui m'entoure. Qui a un peu évolué depuis. Les gens qui dansent, c'est ça. Il y a peut-être dans le Photomaton, qui est une chanson un petit peu autobiographique, dans le sens où c'est un truc vrai, une anecdote vraie. Mais en fait, je dis ça, mais tout l'EP est basé sur des anecdotes vraies. C'est vraiment ce que j'ai. C'est pour ça que je suis content de pouvoir le présenter et que j'ai aucun mal à en parler, parce qu'en fait tout est vrai, tout est réel. J'ai vraiment rencontré un Ali, qui est chauffeur de taxi après en rentrant d'une soirée. J'ai vraiment entendu quelqu'un crier pas bourré, je suis pas bourré à sa copine dans un bus de nuit. C'est des choses qui me parlent, c'est des choses qui me touchent, et surtout c'est aussi que moi je commence à avoir vraiment une passion et un œil pour les choses du quotidien. Les choses, parce que j'ai l'impression qu'on est toujours en train de regarder un peu autour, dans l'espace, etc. Machin. Mais en fait, il y a des choses très belles qui se passent à côté de nous. C'est juste que forcément, on a peu ce regard-là. Moi, parfois, je l'ai pas. Et quand je l'ai, j'en fais une chanson.
Tu nous parles de regard. Beaucoup sont inspirés dans leur écriture par l'actualité ou par des sujets de société. On a l'impression que c'est pas forcément ton cas. Alors, est-ce que c'est des choses que tu évites, c'est des choses sur lesquelles tu ne te sens pas à l'aise, pas légitime, ou c'est simplement une envie de légèreté dans un monde qui est déjà bien compliqué comme ça?
C'est à la fois une envie de légèreté, et pour moi c'est pas si léger que ça. C'est-à-dire que quand je parle de Ali roule de nuit, qui est un chauffeur de taxi, en fait je parle vraiment d'un sujet entier où il se passe tellement d'histoires, et pour les gens ces histoires ne sont pas légères. C'est-à-dire que comment l'histoire d'amour de quelqu'un d'autre, on la trouve toujours légère parce que c'est pas la nôtre. Et puis une fois que ça nous touche, on se retrouve bien alourdi par son poids. Et après, tout ce qui est sujet d'actualité, etc., je le fais de temps en temps, d'écrire sur que ce soit la guerre, toutes les horreurs du monde, etc. Mais en fait, déjà, je me dis qu'il y a déjà bien assez de gens qui nous foutent la poisse et que la dépression à longueur de journée, à la télé, à la radio et partout sur Internet, qu'à un moment, il faut au moins écrire avec un peu d'optimisme. C'est en tout cas ce que j'ai essayé de faire tout le temps. Et ça passe déjà par regarder les gens d'en bas, comme disent certains, ce que je déteste. Ou alors, ça passe aussi en donnant du nouveau souffle à une jeunesse qui se fait constamment critiquer et qui pourtant a de magnifiques projets derrière elle.
Cette EP, il nous parle de nuit, il nous parle de ce que tu observes de la nuit. Il s'y passe beaucoup de choses. Quel est ton rapport à la nuit ?
J'ai fait beaucoup la fête quand j'avais 18 ans. Je suis allé à Lille, j'ai fait pas mal la fête. Je l'ai faite un peu sur Paris aussi. Dès que j'étais plus avec ma mère, je me suis dit je vais découvrir les plaisirs de cette vie-là. Maintenant, je me suis un peu calmé parce que ça m'a un peu ennuyé. Du coup, maintenant, je raconte un peu tout ça à travers la musique, en tout cas ce qui m'en reste. Par contre, mon rapport à la nuit, comme je pense plein d'artistes qui se la jouent artiste maudit dans un costard avec des cheveux en pétard, je pense que je suis pas le seul. C'est-à-dire que moi, c'est un truc qui me parle, c'est un truc qui m'apaise. Je me sens beaucoup mieux la nuit que le jour. Je fais partie de ces gens-là, en tout cas. Et je sais que je suis loin d'être le seul. Maintenant, c'est c'est pas pour autant que j'écris la nuit et que j'écris comme un dingue à la lueur de la du soleil, de la bougie ou du soleil levant. C'est pas du tout ça, hein. Moi j'écris plus le jour d'ailleurs, mais par contre je vis les choses la nuit.
Et parmi les prochains concerts de Sam Sauvage, il y aura deux étapes importantes dans notre région. Le Main Square Festival à Arras le dimanche 6 juillet et le Festival du Poulpaphone à Boulogne-sur-Mer à la maison le samedi 13 septembre. Deux rendez-vous importants pour Sam Sauvage.
Alors ce qui est très drôle, c'est que, et là je vais faire frémir tout le monde, je ne suis jamais allé au Main Square en tant que spectateur, ce qui est une honte pour un Boulonnais quand même. Mais ce qui est bien, c'est que je vais le découvrir sur scène. Parce que moi, à chaque fois que je devais y aller, à chaque fois ça s'est pas fait, ça a toujours été un truc malédiction. Donc là, j'espère qu'il n'y aura pas cette année, normalement je devrais être présent. Moi, je l'appréhende vraiment avec beaucoup de bonheur, parce que c'est un festival qui est très réputé. Il y a quand même des programmations qui sont magnifiques chaque année. Et surtout, c'est un festival qui défend les talents de sa région, qui défend les talents qu'on vienne de Lille ou Boulogne. D'ailleurs, c'est vraiment ça qui est chouette. Et là, l'invitation m'a honoré, m'a fait très plaisir. Donc j'ai hâte d'aller retrouver cette vraie scène.
Boulogne, justement, il y a le Poulpaphone qui vient de tomber, qui sera programmé. Et tu avais déjà été suivi justement par les équipes du Poulpaphone dans le cadre du dispositif La Couveuse. J'imagine qu'il y a une certaine émotion à jouer à la maison et puis dans ce festival qui t'a accompagné aussi.
Alors oui, il y a une certaine émotion, d'autant plus que l'année dernière, en fait, quand on avait été accompagné par le Poulpa Plus avec La Couveuse, on avait programmé, et c'était déjà très cool, sur la Music Box. En gros, c'est la toute petite scène qui vraiment fait la jonction entre la grande scène et la petite scène du Poulpaphone. Et c'est vraiment la scène un peu bar, quoi, en face du bar. Et je me rappelle, j'avais joué, c'était déjà un souvenir de dingue. Et puis là, l'année d'après, on se retrouve sur la grande scène. Enfin, deux ans après, on se retrouve sur la grande scène en ouverture du festival. C'est quand même assez dingue pour nous. Et puis, c'est surtout... Moi, je serais jamais autant reconnaissant possible qu'à Boulogne pour tout ce qu'ils m'ont donné. C'est-à-dire que c'est grâce à eux que je me suis trompé, que j'ai eu le temps de me tromper, que j'ai eu le temps de faire n'importe quoi sur scène pour retrouver mes bonnes versions et qu'on a pu en arriver là aujourd'hui.
L'EP Sam Sauvage est disponible depuis le 23 mai dernier chez tous les bons disquaires et sur toutes les plateformes d'écoute et de téléchargement numérique. Et vous pourrez applaudir Sam Sauvage dans de nombreux concerts et festivals cet été. Toutes les informations sur les réseaux sociaux de l'artiste. Ce sujet a été réalisé par Junia May pour Radio Plus.
Une émission proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France. Une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.
Aux fumées aériennes dont se plaignent les vieilles dames. Il y a les gens qui crient tout le temps. Ceux qui sourient de temps en temps. Et il y a les gens qui dansent partout et n'importe comment. J'adore.
Vous écoutez Radio Campus 106,6 FM, www.campuslille.com.
Où son cousin, issu de Germain, médaillé de la foire au boudin, dont le bisailleur repose en paix, sous l'aigle aïeul des Rodriguez. Leur fils Maxime tient l'officine, et si le cadet de feu son nom, qui fut banquier puis député. Thank you. de tous ces messieurs-là, ma mère, qui me font tant la cour. Je n'en voudrais pas pour mari, je n'en prendrais pas pour époux. Car l'amour, c'est comme un arbre qui s'effeuille au printemps. Car l'amour, c'est comme un arbre qui bourgeonne en automne. J'en ai brûlé toutes les branches pour chauffer mon cœur trop froid. J'en ai brûlé toutes les branches. Avec Samson pour ses chansons et le bedeau pour ses grelots, pour les mollets de l'Écossais, avec Pablo et ses tableaux. Mais sans raison, avec Aymon, le ramasseur de champignons, pour le gibier du fauconnier et braconnier pour ses idées. J'ai jardiné chez Florimond, j'ai boulanger avec Michel, le beau rucher du Chapelain, des petits riens avec Justin. Rémi Didier et la cousine, le décolleté de la Bertille, un prisonnier, un fou allié, et puis Lucien pour sa larcin.
T'as que dalle, t'as que dalle.
T'as que dalle, t'as que dalle, t'as que dalle.
Viens faire une course dans les bouchons avec ta Porsche. Jolie piscine, dommage qu'ici aussi souvent il pleuve. Le bel avenir que t'as acheté, t'inquiète, il se rapproche. Et ouais, le temps passe pas plus vite sur ta Rolex 9. Tes sables de marque ne te démarquent qu'au regard sourd de ces énarques qui se targuent de vivre heureux. Mais qu'est-ce qui casque pour calquer à ce parcours? À cette casque ne remarque que les envieux. T'es sorti d'une grande école mais t'es encore tout petit. T'attends que ta vie décolle, tu te fais du souci. T'es plus si bien dans tes grolles même si c'est des Gucci. Viens là qu'on échange les rôles même pas pour un bullshit. Tu penses qu'à avoir tu prends pas le temps d'elle. Tes 6000 révoltes n'ont toujours été que pas le tempête. Contre les membres de ta clique j'ai quelques phases en tête. Et si mes phrases t'embêtent, là c'est la base dans ce texte. Est-ce que t'as déjà remis en cause que tes parents t'ont à prière? Dévié du chemin qui t'avait tracé en primaire. À part une régression goûtée, t'as jamais connu la misère. Personne répond à tes prières, et ouais le bon Dieu, il t'aide jamais et ça fait mal, pourtant mon vieux. Tu t'en sors de façon honorable, merci pour Dieu. Et le reproductivisme social, ce que t'appelles bouse. Eux ils partaient vraiment de que dalle, que dalle,
que dalle,
que dalle,
que dalle,
que dalle,
que dalle,
que dalle,
que dalle,
que dalle,
que dalle,
que dalle,
que dalle,
que dalle,
que dalle,
que dalle. T'es bon qu'à faire le beau comme ton 4x4 en ville. Paye tes coups de soleil sur ta playa d'Antique. Tu pars en vacances avec 100 balles là-bas, t'en claqueras 100 000. Mais tu te sentiras seul, Scar la sensible. Super pouvoir, c'est ton cash, t'es comme Batman Empire. Ta vie est une blague, mais y'a pas de quoi en rire. Et sur le pont des arts, t'as mis un cadenas en or. Mais y'a des choses qu'on n'achète pas et que tu canneras sans vivre. Ouais, ta maille a du succès, mais de toi les fils lassent. T'as payé pour entrer et tu paieras pour la passe. T'as jamais été passionné, t'as été efficace.
Qui t'a tué à mon banquier?
Sans ton épitaphe, t'aurais voulu être un artiste. Mais pour toi, un numéro, c'est sur un compte, pas sur une piste. Et plus y'en a, plus c'est beau. T'aurais voulu être un chanteur, pouvoir crier qui tu es. T'aurais été qu'un menteur, t'es personne et tu le sais. T'es trop nourri d'illusions, là c'est la crise de foi. Tu penses être libre, t'aimes à tout ce qu'on exige de toi. Tu penses être riche, frangin, dis-moi t'es riche de quoi? Arrête t'es triste, je le vois. Sérieux, t'es riche de quoi? Sérieux, t'es riche de quoi? Sérieux, t'es riche de quoi? 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 Riche de quoi?
Vous écoutez Radio Campus